Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Décollage de la fusée Intégral Sport, 13h-15h en direct, lancement en orbite autour de la planète sport. Vous ne manquerez rien, comme d'habitude, RMC partout où ça se passe. Roland Garros, le critérium du Dauphiné, la Formule 1, la fin des championnats de Ligue 1, de Ligue 2, on fait le bilan calmement avec des acteurs d'une saison dont vous n'avez rien manqué sur l'antenne. Ahmed Schaeffer, président de Clermont Foot, sera mon invité pour revenir sur la belle saison de son club. Et Mathieu Hudol, le capitaine du FC Metz, promu en Ligue 1 la saison prochaine, viendra nous dire tout son bonheur de retrouver l'élite du football français en août prochain. On n'oublie pas votre défi hippique, le rendez-vous qui ne manque jamais de sel. Voilà le programme, on va se régaler comme d'habitude. Vous êtes bien sur RMC, l'Intégral Sport, ça démarre tout de suite. Mais avant de filer porte d'Auteuil dans un instant pour parler résultats et programme à Roland Garros, on vient de l'apprendre, c'est l'info de la matinée, on n'entendra plus jamais ça sur RMC. Et non, terminé, les buts de Karim Benzema commentés par Fred Hermel, à moins que Fred se mette aux commentaires d'un autre championnat, on va en parler avec lui dans un instant, mais cette info, elle est tombée vers midi, car cette fois-ci c'est officiel, Karim Benzema quitte le Real Madrid, le club espagnol l'a annoncé par communiqué, je cite une partie, le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Alors après 14 saisons dans ce qu'on surnomme la Maison Blanche, celui qui était arrivé de Lyon en 2009 comme un espoir du football, on repart comme une légende, ballon d'or en titre, 5 Ligues des Champions, 4 titres de champion d'Espagne, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes d'Europe, 3 Coupes d'Espagne et j'en passe. 353 buts, 165 passes décisives, sans parler de toutes ces déviations, ces feintes de corps. C'est une d'eux qui ne compteront jamais dans les stats, mais dont Fred Hermel se souviendra longtemps, notre spécialiste de foot espagnol à RMC. Salut Fred.
Hola chicos.
Fred, finalement, Benzema, no se queda.
Ben non, et pourtant il avait dit que la réalité n'était pas Internet. Alors il a reçu ce qu'on appelle le Marca Leyenda, la légende du Marca, qui est un trophée qui est donné aux immenses sportifs des mains de Marca. Et il a démenti ces informations. Alors on peut imaginer que l'offre, elle était évidente, hein, l'offre, parce que là tout. Il va sûrement partir en Arabie Saoudite, hein, où il a une offre de 200 millions d'euros, donc par saison. Donc le chemin semble tout tracé. L'hésitation, il y a eu hésitation, il semblerait. À un moment, le Real Madrid a eu l'espoir de pouvoir le conserver, mais voilà, la volonté d'aller dans un autre championnat, de gagner beaucoup beaucoup d'argent, parce que voilà, on est dans des sommes inimaginables. Et Karim Benzema qui va quitter un club dans lequel il a eu une carrière absolument incroyable. Il a connu les hauts et les bas. Moi, je l'ai vu arriver à Madrid. Hein. Je l'ai vu triste. Je l'ai vu sur le banc. Je l'ai vu en concurrence avec plein de grands attaquants. Et puis Karim Benzema s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. 25 titres, c'est le recordman de titres avec le Real Madrid, avec Marcelo. Voilà, donc Karim Benzema est une légende de la Liga, une légende bien entendu du Real Madrid. Et voilà, donc c'est un départ qui se fait dans la douceur. On va peut-être se dire que c'était le moment. La saison dernière a été sa meilleure. La saison qui s'achève a été pas très bonne. Il n'a pu disputer, à cause de plein de problèmes physiques, que 59% des minutes en Liga. Le Real Madrid avait besoin d'avoir un nouvel attaquant et Benzema avait sûrement besoin d'aller voir ailleurs. Donc cela se fait dans la douceur, en bon entendement entre le club et Karim.
Fred, comment toi, le grand connaisseur du fonctionnement de ce club, tu expliques ce petit imbroglio autour de la communication? Est-ce que ça traduit le fait que le Real a tenté de le conserver coûte que coûte jusqu'au bout en démentant son départ? Est-ce que on sait que Carlo Ancelotti hier a dit qu'il ne croyait pas au départ de Benzema? Est-ce qu'il bluffait, ou est-ce que jusqu'aux dernières minutes il y a eu des discussions selon toi?
Il semblerait qu'il y ait eu des discussions, puisque le Real a annoncé hier le départ de joueurs comme Mariano Diaz, comme Hazard quand même. Bon, là c'est gros échec Hazard, a annoncé le départ de Marco Asensio qui devrait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Donc oui, le Real jusqu'à la dernière minute a essayé de retenir Karim Benzema. Le Real n'avait jamais démenti officiellement, c'est Karim Benzema qui avait démenti avec devant les caméras de Marca lors de cette remise du Marca Leyenda. Et donc voilà, on sait très bien que, et on a le droit de douter, je veux dire, quand on est Karim Benzema, en se disant qu'est-ce que je fais, je termine ma carrière au Real ou je vais dans un autre championnat, voilà, dans un pays où il est très aimé, hein. Vous savez, tout le golfe persique, il y a énormément de fans du Real Madrid, ça je peux vous l'assurer. Donc il va dans un pays où il va être adulé, donc au même titre que Cristiano Ronaldo et qui sait peut-être Léo Messi aussi, donc voilà. Moi, si vous me demandez mon avis, si tu me demandes mon avis personnel, je pense que les grands joueurs doivent terminer dans les grands clubs. Je trouve que Zidane, qui termine en 2006 avec le maillot blanc, même après une saison difficile, ben ça a plus de gueule. Hein. Mais bon, Raoul, légende du Real, a terminé à Schalke 04. Voilà, bon, tout ça et voilà, c'est le football d'aujourd'hui. Moi, j'aurais préféré pour la France qu'il revienne faire une dernière année à Lyon, par exemple. Peut-être qu'il le fera après, voilà, parce qu'il a été formé à Lyon. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il n'y a pas de drame, en fait. Voilà, je veux dire, Benzema ne part pas au sommet de sa carrière. C'est-à-dire, le Real savait déjà qu'il fallait un nouvel attaquant pour être aux côtés de Karim Benzema, parce qu'un nouveau buteur, puisque Karim Benzema ne peut plus jouer à 100% deux matchs par semaine. Et le Real est un club toujours très ambitieux qui joue à fond tous les titres. Donc, voilà, ça arrive peut-être au bon moment. Voilà.
Fred, tu le classes où rapidement dans le panthéon des joueurs qui sont passés par ce club, et ils sont nombreux les grands joueurs qui ont marqué l'histoire du Real.
Il y en a beaucoup, mais on peut dire qu'il est dans le top 10 quand même. Hein.
Top 10.
Il est dans le top 10. Hein. Ben, c'est-à-dire, le Real est un club qui est plus que centenaire, donc il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés. Après, au niveau des statistiques, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, au niveau statistique, c'est dans le top 3. Donc après, dans le cœur des gens, il va rester. Il a eu beaucoup de mal à s'installer dans le cœur des gens. Il avait un football. Je disais souvent qu'il avait un football trop délicieux, trop délicat pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre le football de Benzema. Moi, je me souviens au stade Bernabéu, des gens qui disaient des mots pas très beaux, qui m'interpellait, moi, grand défenseur de Benzema, en disant ton Benzema, il faut le vendre. Ouais. Voilà, et tout. Et Benzema, il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'offres. Tous les ans, il y avait des grands clubs qui lui offraient beaucoup d'argent. Mais il voulait triompher au Real Madrid, et c'est ce qu'il a fait. Et on peut lui reconnaître ça, sa persévérance. Moi, je retiendrai comme Benzema sous le maillot du Real, comme quelqu'un de persévérant, de brillant, bien entendu, mais surtout de persévérant.
Et puis effectivement, il a surmonté, comme tu l'as dit, beaucoup de critiques, beaucoup de scepticisme. Et puis il a fait le ménage parmi tous les numéros 9 qui ont l'occasion de signer dans ce club depuis 2009. Merci beaucoup, Fred. On te retrouvera évidemment dans la soirée sur l'antenne, dans la journée sur RMC pour évoquer le passage de Karim Benzema. Karim Benzema qui quitte donc le Real Madrid après 14 saisons. Il disputera donc ce soir son 648e match, le dernier sous le maillot du Real Madrid. Ce sera face à l'Athletic Bilbao à Santiago Bernabéu. Rencontre à suivre en direct sur RMC à partir de 18h30. 648 rencontres sous la tunique du Real. Aucun joueur étranger n'a fait mieux, n'a joué plus de rencontres sous le légendaire maillot du club madrilène. Merci beaucoup, Fred. Allez, comme promis, le tennis, les internationaux de France, mais pas des Français, vous le savez. Roland Garros, le quatrième tour ou les huitièmes de finale. On va encore se régaler toute la journée. Porte d'Auteuil sous le soleil parisien, du beau monde sur les cours, des favoris au rendez-vous et un petit début de polémique. C'est le Roland qu'on aime. On en parle dans l'Intégral Sport avec Eric Salio et Florent Serra, nos spécialistes tennis. Ils se sont badigeonnés de crème solaire en nous attendant. Bonjour messieurs.
Salut à tous.
Bonjour à tous.
Bon messieurs, juste un petit mot, parce que c'est vrai que c'est pas tous les ans la fête. On est gâtés avec ce temps exceptionnel du côté de la Porte d'Auteuil cette année.
Ah bah on n'a pas vu une goutte de pluie. Ouais. Je peux te narrer un Ferrari ici.
Bien sûr.
Qui vient de se produire sur le cours 14. Il y a une ramasseuse de balles qui malheureusement a... J'ai pas vu la scène éclatante, mais qui a reçu une balle lancée par une joueuse lors d'un double dame. Et ben ça, elle était en larmes, et donc l'arbitre vient de prononcer la disqualification de la paire Kato Sujnadi. La petite, ouais, on voit les images, c'était il y a 5 minutes.
C'est un geste d'énervement, c'est pour ça qu'elles ont été.
Écoute, j'ai pas vu la scène exactement, je pense que c'était après un point, elle a voulu peut-être elle venait de rater un retour de service, donc elle a lancé violemment la balle, mais elle était de l'autre côté du filet, donc à une vingtaine de mètres et la pauvre petite ramasseuse a reçu la balle et l'arbitre a dû disqualifier donc cette paire. Voilà, c'est.
Je dis pas de bêtises, c'était arrivé à l'US Open, non, il y a quelques éditions avec Djoko, hein, c'est ça?
Absolument. C'était une juge de ligne, mais là, c'est une ramasseuse de balles et voilà, tout le monde est un peu peiné, mais c'est le règlement, malheureusement. Elle l'a pas fait volontairement, je pense, mais à partir du moment où elle a touché la ramasseuse qui est en pleurs, donc, on va la revoir. Attendez, je revois le ralenti. Ah ouais, bon, c'est un mauvais réflexe, un revers qui a touché la judéine. Voilà, bon, c'était pour vous dire que ramasseur de balles, parfois, c'est un métier dangereux aussi.
Et oui,
et on salue les ball kids parce qu'ils font un boulot fabuleux.
Bien sûr,
tous les
bien
matins
sûr.
À 10h, ils courent dans les allées avec leurs chants et c'est magique.
Et on espère que.
J'aurais aimé être ramasseur de balles.
Ah, moi aussi, j'en aurais rêvé à l'époque. On espère que ça va aller pour cette jeune ramasseuse de balles, effectivement, et que ça ne remettra pas en cause son amour pour le tournoi et ce magnifique sport. Messieurs, Eric Salio, Florent Serra, les favoris en piste aujourd'hui, Djoko, Alcaraz, évidemment.
Oui, alors Novak Djokovic, faudra attendre environ une heure puisque sur le central, Anastasia Pavlyuchenkova et Elise Mertens adorent le central. Elles sont à 1-7 partout. C'est la Russe qui vient d'égaliser il y a quelques minutes en prenant le tie-break du deuxième. Et donc on débute à peine le troisième, Simon. Donc oui, Djokovic, pas avant, on va dire 14h15. Hein. Et grosse affiche, Djokovic-Varias. Mais bon, le match qu'on attend tous, c'est celui qui suivra. C'est Alcaraz contre Musetti, parce que ce sont deux talents extraordinaires, deux jeunes quasiment de la même génération. Et la dernière fois qu'ils se sont joués, notamment en finale à Hambourg, ça avait fait des étincelles. Non, on s'attend à une grande journée de tennis et heureux sont les possesseurs de billets aujourd'hui pour cet après-midi sur le central à Roland, hein, Flo. Hein.
Bah, c'est sûr que là, lorsque tu arrives, il fait super beau. On voit les gens casquettes obligés aujourd'hui et que tu as Alcaraz, Musetti, Djokovic, Varias sur le court Philippe Chatrier. Je pense que t'es content et tu peux être un peu plus heureux que la session de 20h15 sans rien enlever au match féminin programmé ce soir.
On va en reparler.
Mais non, ce programme fabuleux, je pense une très très belle opposition entre Alcaraz et Musetti et Djokovic qui, comme l'a dit Eric, je pense qu'il devrait dérouler parce qu'il a laissé un peu de plume sur ses tours d'avant, trois matchs en 5-7 pour Varias. Donc à mon avis, vu le niveau déjà de Djokovic contre Davidovic Fokina, ça devrait être ok pour Novak Djokovic.
Alors, messieurs, je parle sous votre contrôle, mais c'est vrai que, bon, avec la présence de Djoko et Alcaraz dans la même moitié de tableau, on parle beaucoup de ce haut de tableau. Hier, dans le bas de tableau, on a retrouvé un Grigor Dimitrov ressuscité, et puis on a Zverev qui a fait forte impression un an après sa grave blessure ici même.
Ouais, c'est sympa de revoir Sacha Zverev sur le central parce que y a un an pile, hein, on se souvient tous de ce cri de douleur, c'est ce cheville qui tourne, qui s'était bloqué dans la terre battue, qui était un peu meuble, il faisait froid, donc il s'était bloqué le pied et puis il n'a pas pu faire autrement que d'abandonner. Et on a vu ensuite que je crois qu'il y avait trois ligaments qui étaient touchés. Il en est pour longtemps à se remettre de cette blessure. Et là, ça fait deux matchs d'affilée qu'il joue au champ central. Et pour lui, c'est le symbole est fort. Et puis surtout, le match hier soir, il est allé le chercher parce qu'il gagne en 4-7 contre un Tiafoe qui était très dangereux. 3-6, ouais. 7-6, 6-1, 7-6. On peut même dire que l'Américain a raté le coche parce qu'il a servi pour revenir à deux manches.
Il a bien joué, hein. Il a très bien joué.
C'était très spectaculaire parce que là, Tiafoe, on le connaît. Il a son style.
Il aime bien les matchs comme ça en night session avec.
Ouais, il est chômage.
Il aime bien ça. Lui, il a déclaré il y a pas si longtemps que ça que il aimerait bien jouer avec un public qui parle, qui bouge, qui marche, que ça le gênait pas du tout. Enfin voilà, l'ambiance un petit peu à l'américaine. Et c'est vrai que je trouve que Sacha Zverev s'en est très très bien sorti hier sur ce match-là et que son niveau de jeu est en train de revenir progressivement à son top. Il y a encore un peu de travail, mais c'était une belle victoire qui peut lui donner confiance.
Ils se joueront, hein, Dimitrov et Zverev. Ils se joueront demain. On sait pas encore sur quel court. Et puis dans ce bas de tableau, t'as aussi les deux Scandinaves qui pourraient éventuellement se retrouver en quart de finale. Mais attention au danger sud-américain.
Oui.
C'est Rundolo l'Argentin qui a battu Fritz. Et puis aussi Nicolas Jarry, le Chilien, qui est une sorte, Flo, j'ai envie de dire, de sorte de Del Potro. Il est très grand et il frappe extrêmement fort dans la balle. Et en plus, il est en pleine confiance. Il vient de gagner Genève. Attention, c'est pas acquis du tout qu'un Scandinave soit en demi-finale de cette moitié de tableau.
Oui, je rejoins Eric aussi là-dessus parce qu'on a Francisco Cherundolo aussi, l'Argentin qui a fait un excellent match contre Taylor Fritz qui était tête de série 9. Hein. Il gagne en 4-7 et après en plus avoir perdu le premier set, il a été super solide, très constant. Et Jarry, c'est en plus Genève, c'est un tournoi qu'il avait déjà brillé. Et c'est vrai qu'il est assez puissant. Il avait été suspendu il y a quelques mois pour dopage et puis depuis qu'il est revenu, bon là. Il est vraiment au top. C'est vrai que je l'avais aussi revu en Amérique du Sud. Déjà, il avait goûté à cette terre battue en début d'année, donc il est bien préparé sur la surface. Et puis là, Roland Garros arrive. Il a laissé un petit peu de plume, mais il est physique, pas bien méchant, et il pourrait poser des problèmes à Casper Ruud, qui n'est pas non plus super convaincant encore. Donc ça aussi, comme dit Eric, Jarry, faut vraiment se méfier de ce joueur, et ça va être une belle affiche.
Et Cherundolo qui en a profité pour devenir quasiment un des chouchous du public français, puisque il a éliminé Fritz. Qui s'était un petit peu attiré les foudres ouais. de notre public. Voilà, un petit peu difficile à convaincre. Messieurs, on aura l'occasion de parler demain hein, de Swiatek qui a été impressionnante hier. Elle a offert un beau vélo à la chinoise Wang, la 6-0, 6-0. Mais je suis obligé de vous interroger, vous en parliez en tout début d'émission, sur ce début de polémique avec une affiche féminine en Adsession qui n'a pas l'air d'emballer les foules. Hein.
Non, c'est vrai qu'on a tous été un peu surpris hier après-midi lorsque le programme est sorti, parce que pour nous, l'affiche du jour, hein, c'était Musetti Alcaraz.
Bien sûr.
Alors, on sait que en coulisses, il y a dû avoir un petit coup de pression lors de cette fameuse réunion où on établit la programmation. Amélie a dû prendre un coup de pression de la WTA. On avait lu quelques déclarations de Sloane Stephens, l'américaine qui est membre du conseil des joueurs, qui commençait à s'agacer parce que on était à 6-0, hein, Simon, hein. 6 night sessions, oui. 6 matchs masculins. Donc, il fallait qu'à un moment ça tombe. C'est tombé. Et les conséquences, c'est que très vite, on a vu sur le site de revente de places qu'il y avait beaucoup de personnes qui remettaient en vente leur place. Alors ce matin, Simon, on avait un petit point presse totalement informel avec Emile Morespo. Évidemment, on lui a posé la question sur le sujet. Ça ne semblait pas l'inquiéter. Écoutez-la.
Les billets ont été revendus, je pense. C'est pas trop un sujet sur les reventes parce que globalement tout a été racheté. Donc ça veut dire que oui, il y en a sûrement qui étaient moins contents et puis d'autres qui ont trouvé leur compte. Donc là-dessus, je crois qu'on est square, enfin on est à peu près square d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, il n'y a pas trop de sujet en fait là-dessus.
On est square. Donc, ouais. Écoute, Simon, on verra ce soir. Hein. S'il y a d'énormes gruyères dans les tribunes, Amélie, elle a de mauvaises informations. Ouais. On verra. Mais c'est vrai que c'est pas la fille qui fait rêver. Éventuellement, moi, j'aurais mis, pourquoi pas, je ne suis pas directeur de tournoi, hein, j'aurais mis hier soir le match entre Coco Gauff et la petite pépite russe Mira Andreeva. Parce qu'il y avait, il y avait un aspect curiosité, audace. Là, quand t'as Alcaraz Musetti, je pense que les gens qui avaient des billets pour les Night Sessions, ça fait plusieurs jours qu'ils regardent le tableau, ils se disent waouh, bingo, on va l'avoir.
Ils étaient sûrs que c'est bien sûr.
Là, à mon avis, ils sont tombés de haut. Donc, il y a une question qui se pose, Simon, aussi, et c'est pourquoi Roland Garros ne copie pas ses petits copains de l'Open d'Australie et de l'US Open, à savoir une night session avec deux matchs. Un match féminin, un match masculin, peu importe l'ordre, il n'y a pas de.
Ouais. Moi, je trouve ça logique.
Régler le problème, effectivement.
Oui, mais il faut démarrer un tout petit peu plus tôt, au lieu de démarrer à midi sur le cours central, ouais. Sur le cours Philippe Chatrier, on démarre à 11h, et puis on avance un petit peu la night session aussi. Ils ont déjà avancé, donc, c'est ce qui se dit, mais vous, au lieu de commencer à 20h15, on peut commencer même si on avance une heure, à 18h30, ça peut être jouable.
Il y a le diffuseur qui a payé cher, qui lui veut un coup d'envoi à 20h30. Alors, Amélie Morespo. On va écouter ses arguments, c'est pas inintéressant.
On s'adresse quand même globalement à un public plutôt francilien, parisien, francilien, à mon avis. Et c'est quand même le public qui vient consommer comme tu vas au théâtre ou comme tu vas, je pense, à un concert ou quoi. Donc je crois pas aux 19h, tu vois, aux notes before 19h avec deux matchs. Les détenteurs de billets de soirée, je ne pense pas qu'ils arrivent à 18h ou 18h30 dans le stade pile pour être sur le court à 19h et rester jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Deuxièmement, on ne voulait pas, comme les autres grands chelems, finir à 2h, 3h, 4h du mat. Et troisièmement, on ne peut pas, je pense, pour cette raison-là, avoir 5 matchs sur le Châtrier.
Bon, elle est dans son rôle, Amélie Mauresmo. Effectivement, elle justifie le choix qui a été fait. Un petit peu étonnant, en tout cas un petit peu décevant pour les supporters qui étaient détenteurs d'un billet pour la Night Session de ce soir. Eric Salio, Florence Serra, merci beaucoup. On vous retrouve évidemment tout au long de l'après-midi pour nous commenter ces huitièmes de finale du côté de Roland-Garros. On n'oublie pas Julien Taxis, également Anthony Reich. Et puis, j'en profite pour rappeler aux auditeurs que durant la durée du tournoi, cours numéro 1, le podcast tennis de RMC fait un épisode par jour, et que cette polémique autour de la Night Session, vous en parliez déjà dès hier. Vous pouvez aller écouter l'épisode d'hier.
Et celui d'il y a deux jours, il est très bon parce que...
Ils sont toujours très bons, Eric.
Non, pas toujours. Il y en a qui sont moins bons, mais celui-là était marrant, vous verrez, parce qu'on est parti à la découverte de deux joueurs de double français, Fabien Reboul et Sadio Doumbia, qui sont les deux derniers rescapés tricolores dans le tableau de double. Et ils joueront tout à l'heure sur le cours Simon Mathieu. Ce sont des garçons bonnards et fêtards. Je vous en dis pas plus.
On adore. Voilà un excellent teasing. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Florent. Et bon après-midi du côté de la Porte d'Auteuil. On vous retrouve évidemment tout au long de l'après-midi sur l'antenne. J'en profite pour rappeler également aux auditeurs que RMC est sur toutes les balles. Dispositif exceptionnel durant toute la quinzaine de Roland sur RMC. Vous ne manquez rien du tournoi sur l'antenne. Et vous n'oubliez pas la nouveauté de cette année, cette radio digitale, une innovation de la maison. RMC 100% terre battue, les meilleures affiches du tournoi en intégralité, les dernières infos, des interviews des joueurs dans les flashs actualisés toutes les demi-heures. Vous téléchargez l'application RMC et puis vous vivez comme ça au plus près l'expérience Roland-Garros. Voilà, au plus près des grands événements, c'est la promesse de RMC. Vous le savez, l'Intégral Sport revient dans un instant. On va filer dans le Puy-de-Dôme pour le départ du Critérium du Dauphiné. Ça sent bon le Tour de France. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
À 13h32, vous êtes bien sûr RMC, l'Intégral Sport se poursuit. On est en direct ensemble jusqu'à 15h avant de passer la main à Christophe Cessieux, puis à Benoît Boutron, 17-19, l'Intégral Foot. Émission au cours de laquelle on aura le temps de revenir sur cette info. RMC Sport, je vous la donne en exclusivité. Didier Digard ne sera plus l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine. Info RMC Sport, donc l'entraîneur l'OGC Nice qui va donc se mettre en quête d'un successeur, celui qui avait remplacé en cours de saison Lucien Favre, évidemment, l'ami Boutron qui reviendra sur cette information. Intégral Foot, 17h 19h, dans un instant on file sur la route du Critérium dans le Puy-de-Dôme pour retrouver Arnaud Souk et faire le point sur le plateau qui attend les favoris. Mais avant ça, petit détour par Roland-Garros. On va faire un point sur les rencontres en cours avec Eric Salio et Florent Serra.
Ouais, toujours pas de qualifiés pour les quarts de finale, Simon, puisque sur le central Pavlyuchenkova, Anastasia de son prénom, et Elise Mertens sont à une manche partout. Et il y a 2-0 pour la Russe dans le troisième. Et puis sur le cours Susan Englen, c'est la guerre. C'est la bataille entre Khachanov et Sonego. 1-7 partout là aussi. Khachanov est au service à 5 jeux à 4. Il sert pour le gain du set, mais Sonego a 2 balles pour recoller.
Votre rendez-vous tennis avec Prime, diffuseur officiel de Roland-Garros.
Allez, Roland-Garros, évidemment, ça continue sur l'antenne de RMC jusqu'à dimanche prochain. Mais dans moins d'un mois, vous le savez, on va parler bicyclette, vélo, cyclisme. Le Tour de France s'élancera de Bilbao. Ce dimanche, c'est la caravane du Critérium du Dauphiné qui s'ébranle depuis Chambon-sur-Lac. On est dans le département du Puy-de-Dôme, région Auvergne-Rhône-Alpes, en vigilance jaune, évidemment, la couleur du maillot de leader également sur le Dauphiné. Qui le portera à l'arrivée dimanche prochain à Grenoble? Pourrait-il être sur les épaules d'un Français? On en parle tout de suite dans l'Intégral Sport avec Arnaud Souk, notre spécialiste cyclisme à la rédaction RMC Sport, envoyé spécial sur cette édition 2023. Salut Arnaud.
Salut Simon, salut à toutes et à tous.
Arnaud, quand on entend le terme Dauphiné, on pense forcément Tour de France. Présente-nous un petit peu cette course qu'on qualifie souvent de répétition générale avant la grande boucle.
Oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est vraiment une course très difficile, une course pleine de montagnes. On a 1212 km au programme et parti sur 8 étapes. Et j'étais surtout en train de faire le compte du dénivelé positif total que vont s'infuser les coureurs, les partants, les 147 concurrents qui ont pris le départ il y a quelques minutes à Chambon-sur-Lac tout au long de ces 8 étapes. Et bien, c'est quasiment 22 000 mètres de dénivelé positif tout au long de la semaine. Donc, c'est quand même assez significatif. C'est vrai que, voilà, elle paye pas de mine, par exemple, notre étape du jour. Elle paye pas forcément de mine, mais tu as quand même 5 difficultés à franchir. Ouais. On a quand même beaucoup, quasiment 3000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. On est en plein dans les volcans d'Auvergne. Donc voilà un petit peu pour le décor ici. Et puis il y aura surtout une étape assez extraordinaire qui nous amènera samedi prochain du côté du col de la Croix de Fer dans les Alpes, en passant par notamment le col du Mollard ou le col de la Madeleine. Bref, si tu suis le Tour de France, et je sais que c'est ton cas, ces noms te parlent forcément.
Évidemment, évidemment, Arnaud, une épreuve, tu viens de le dire, déjà ultra sélective. Quels sont les favoris de cette édition 2023?
On a un joli plateau quand même cette année. Alors pas de présence de Tadej Pogacar qui ne serait de toute manière pas venu, même si sa main le lui avait permis. Je vous rappelle qu'il a subi une chute sur Liège-Bastogne-Liège fin avril et il a été opéré en urgence au niveau du pouce notamment. Il est en train de regagner, on va dire, en mobilité en ce moment au niveau du pouce et s'entraîne pour être présent sur le Tour de France. Mais en son absence, c'est le dernier vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, le Danois, qui aujourd'hui s'élance avec le dossard numéro 1. Il est évidemment le favori numéro 1 pour la finale, même si pour la victoire finale, il dit qu'il a déjà quand même largement la tête au Tour de France. On peut citer des Espagnols également, Mikel Landa ou encore Henrik Mas. On peut citer un Équatorien, Richard Carapaz. On peut citer, pourquoi pas, un Australien en 5-4e du Tour de France, en la personne de Ben O'Connor. Egan Bernal, on est curieux de savoir ce que vainqueur du Tour de France 2019 aura dans le ventre cette semaine sur ce critérium du Dauphiné. Et puis, si on se tourne également du côté britannique, Adam Yates pourrait pourquoi pas avoir une bonne carte à jouer. Ça sera l'un des 3-4 principaux favoris avec David Gaudu. David Gaudu, et oui, on est obligé de le placer, le Breton aussi dans les favoris. Je vous rappelle qu'il a terminé 3e de Paris-Nice, 4e du dernier Tour de France. Il a connu quelques petites allergies au printemps. A priori, ça va mieux, donc on espère cette semaine, même si cette course lui a pas forcément toujours très bien réussi, que cela puisse être un bon tremplin, une bonne rampe de lancement en vue du Tour de France.
Alors Gaudu pour les Français, mais également évidemment Julien Alaphilippe. Est-ce qu'il est vraiment de retour en forme? Parce que c'est la petite musique qui monte. Un Alaphilippe conquérant et en forme pour à l'attaque de ce Dauphiné.
C'est toute l'interrogation de la semaine, une interrogation qui sera quand même assez rapidement levée, je pense. On a pu s'entretenir avec lui hier, on a pu également le croiser ce matin, Julien Alaphilippe. Il est plutôt confiant, il est plutôt frais, en tout cas au niveau de l'état d'esprit, il se dit frais, impatient d'en découdre. Lui non plus, tout comme Tadej Pogacar, n'a plus couru depuis le 24 avril dernier. Cette course Liège-Bastogne-Liège, il avait subi quelques ennuis sur le Tour des Flandres qui avait largement compromis sa campagne de classique. C'est vrai qu'il la saison, la première moitié de saison de Julien Alaphilippe n'a pas été à la hauteur ni de ses attentes ni de celle de son équipe. Donc c'est un petit peu maintenant une deuxième saison dans la saison qui commence pour Julien Alaphilippe, et ça sera important effectivement de marquer son territoire, de voir aussi où il en est. À chaque fois qu'il a réussi à briller sur le Dauphiné, Julien Alaphilippe, que ce soit en 2017 et 2019 en remportant des étapes, derrière il nous a gratifié d'un Tour de France extraordinaire, que ce soit en 2017 avec une belle épopée, plusieurs étapes remportées, et puis en 2019 surtout, tu t'en souviens, avec ce maillot jaune qu'il avait ramené jusque dans les Alpes à deux jours de l'arrivée, avant de se le faire shipper justement par Egan Bernal.
Alors Arnaud, rappelle-nous, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, le profil un petit peu particulier de cette première étape, et puis fais-nous un petit top course, où en est-on?
Alors nous avons aujourd'hui effectivement une étape, alors c'est assez sympa ce que nous proposent les organisateurs. On a 69 premiers kilomètres qui se déroulent sur en ligne, et puis ensuite il va y avoir des passages sur la ligne d'arrivée ici à Chambon-sur-le-Lac. Il y en aura 4 en tout, le premier, donc ça sera au bout de 69 kilomètres, et puis à ce moment-là les coureurs effectueront à 3 reprises une boucle de 23 kilomètres avec à la clé à chaque fois la côte du Rocher de l'Aigle, dont le dernier passage sera situé à 11 km 100 de l'arrivée, 1 km à 7,3% de moyenne. J'ai peur que ça soit un petit peu léger en termes de déclivité pour permettre à des coureurs comme Julien Alaphilippe de faire valoir leur punch, mais pourquoi pas, on pourra voir ce que cela donne. Derrière il y aura une grande descente, donc si quelqu'un veut essayer de se faire la malle dans cette côte, ça pourrait pourquoi pas être intéressant. La situation de course, alors que l'on a parcouru pour l'instant 20 km et qu'il en reste donc 138, nous avons 5 hommes en tête: Dorian Godon, le français, Donovan Grondin également, le Pistard qui vient faire quelques tours de roue sur la route. Et puis nous avons trois Belges et notamment Brent Van Moor, voilà, qui est un sacré rouleur et qui pourra peut-être, pourquoi pas, tout à l'heure, eh bien, tenter de faire quelque chose. Voilà les cinq hommes en tête, 1:15 d'avance sur le peloton des favoris.
Arnaud Souk, envoyé spécial de la rédaction à AMC Sport en direct de la route du Critérium du Dauphiné qui s'élance. Première étape aujourd'hui, course qui arrivera à Grenoble dimanche prochain, sorte de répétition générale pour le Tour de France. Ça sent bon la grande boucle. Merci beaucoup Arnaud, on te retrouve tout à l'heure autour de l'ami Christophe Cessieux évidemment pour nous faire vivre sur l'antenne cette première étape. Vous ne bougez pas, 13h40, l'Intégral Sport revient dans un instant. On va commencer à se retourner sur la saison de Ligue 1 qui s'est conclue, vous l'avez vécu hier avec ce multiplex, la 38e journée. Dans un instant, je reçois le président du Clermont Foot, Ahmed Schaeffer, à qui on va demander si cette saison n'a pas tout de même dépassé les rêves les plus fous en début de saison dernière. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
13h45, vous êtes toujours sur RMC, l'Intégral Sport se poursuit, on est ensemble en direct jusqu'à 15h, on passera alors la main, le volant à Christophe Cessieux, Jean-Luc Roy et Denis Chevrier pour vous faire vivre en direct le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone, la 7e course du championnat du monde, on va encore une fois se régaler. Mais vous le savez, vous l'avez vécu hier soir sur RMC dans le multiplex de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Cette saison s'est achevée désormais. Et on a noté hier cette belle victoire du Clermont Foot sur la pelouse du Parc des Princes. Succès 3-2 des joueurs de Pascal Gastien qui leur permet de terminer à la 8e place du championnat. Eux qu'on imaginait plutôt se battre pour le maintien. Ils auront enquiquiné tous leurs adversaires, surpris les observateurs. J'ai le plaisir d'accueillir pour en parler Ahmed Schaeffer, le président du Clermont Foot. Bonjour président.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'RMC et de venir nous parler un petit peu dans l'Intégral Sport. Un petit mot tout d'abord, évidemment, sur cette victoire hier soir au Parc des Princes. J'imagine que le fait qu'on dise que les Parisiens étaient un petit peu démobilisés, n'avaient pas la tête à la compétition, n'a pas suffi à gâcher votre plaisir.
Non, pas du tout. Pour nous, c'était une soirée magnifique. Déjà, c'est une saison magnifique, mais après ce qu'on a pu réaliser hier, c'est aussi important que les joueurs et le staff sportif, tout le monde, puissent partir avec ces émotions, ces fortes émotions positives, dont les vacances bien méritées, évidemment. Et pour nous, la direction, il y a maintenant le travail qui a déjà commencé, évidemment, mais qui va s'intensifier, notamment le mercato.
On va revenir évidemment sur cette magnifique saison, clairement 8e de Ligue 1. Et puis évidemment, on va se projeter avec vous sur la préparation de la saison prochaine. Avant ça, est-ce qu'il y a une vraie belle fête dans le vestiaire clermontois hier soir?
Il y a eu une très très belle fête. Ce que se passe dans le vestiaire restera toujours dans le vestiaire.
Évidemment, c'est la règle.
Mais vous pouvez me croire que après aussi en dehors, hein, il faut quand même féliciter les feux d'artifice, le show qu'on a pu assister. Mais oui, on a eu notre petite fête interne usuelle, je dirais, mais cette fois-ci un peu plus spéciale puisque bon, il y a des joueurs qui vont partir, des autres qui vont rester, etc. Donc il y a aussi le moment de faire un petit peu le bilan, c'est émotif, et de partir, comme j'avais dit avant, avec un tel sentiment, c'est encore beaucoup plus particulier.
Vous êtes rentré dans la soirée à Clermont ou vous êtes resté à la capitale pour célébrer
dans la capitale, oui. Dans la capitale, c'était tard, on est resté dans le stade, évidemment, il y a après eu aussi toute cette belle show organisée par le PSG. Donc oui, on est resté là jusqu'à 1h du matin, un peu plus tard. Ouais.
Président, avant de passer à la saison exceptionnelle de votre club, je suis obligé de vous poser la question parce qu'elle enflamme un petit peu les débats ce matin. Vous étiez présent hier au Parc des Princes. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des sifflets du stade à l'encontre de Lionel Messi pour sa dernière avec le Paris Saint-Germain?
Bon, écoutez, j'ai eu la chance de le rencontrer quand je travaillais encore à l'époque à la FIFA. C'est quelqu'un qui est très humble. Je pense que ce qu'il a fait pour notre jeu, ce qu'il a apporté avant et ce qu'il va encore apporter au football, et notamment ici en France, c'est exceptionnel. L'entraîneur, Monsieur Galtier, l'avait dit quand il parlait de ses scorer points au total. Oui, peut-être il était un petit peu en dessous de ses exigences. Peut-être on le critique pour faire maintenant un prochain pas qui est peut-être plutôt économique et moins sportif. Mais pour moi, ça restera comme un Roger Federer. Moi, je suis moitié suisse dans le tennis. C'est Messi dans le football. Donc, une légende, tout simplement.
une légende. Président Schaeffer, cette victoire hier au Parc des Princes, c'est une cerise sur le gâteau d'une saison qui, je parle sous votre contrôle, a dépassé les espoirs du début de saison. Clermont termine 8e de Ligue 1, 3 points seulement derrière l'Olympique Lyonnais. Vous devancez un club comme l'OGC Nice. Est-ce que vous pensiez cela possible en août dernier ou est-ce que vous visiez seulement, j'ai envie de dire, le maintien en Ligue 1?
Bon, moi, je pense que si on fait un petit peu le point au début de la saison 21-22, qui fut la première de notre histoire en Ligue 1, tous les pronostics nous annonçaient l'enfer et une relégation assez rapide en Ligue 2. Finalement, bon, on est arrivé, on a réussi à nous maintenir, mais principalement aussi grâce à tout le travail effectué les saisons précédentes en Ligue 2 et avec une solidarité forte à l'intérieur de le vestiaire. Lors de l'été 22, après nous avons fait le choix de renouveler fortement l'effectif, pour partir sur un nouveau cycle, en apportant plus d'expérience. Là, il y a certains joueurs qui jouent la Coupe du Monde, qui ont joué la Ligue des Champions, qui, tout simplement, ils ont plus d'expérience, ainsi que une dimension athlétique supplémentaire qui est vraiment indispensable en Ligue 1. Et comme vous le savez, ce n'était pas du goût de tout le monde. Je suis très satisfait, bien évidemment, de cette saison qui est bien au-delà de nos expériences initiales. Oui, maintenant, si vous me dites la 8e, la 9e, la 10e, on aura tout de suite signé. Avec cette situation dans laquelle on est maintenant, elle est sûrement exceptionnelle. Mais j'aimerais aussi souligner que l'objectif pour la saison prochaine restera eux-mêmes, comme celle-ci. Ça va être le maintien. Ça ne veut pas dire non plus que c'est un manque d'exigence, un manque de motivation. Au contraire, on connaît notre place. On a 18 clubs maintenant, donc la concurrence va être encore plus dure.
Ahmed Schaeffer, le président du Clermont Foot, est l'invité de l'Intégral Sport sur RMC Clermont Foot qui conclut hier soir au Parc des Princes par une victoire 3-2, une saison exceptionnelle. Président, cette 8e place de Ligue 1, c'est également le fruit du travail de votre entraîneur Pascal Gastien. Il a déclaré hier, c'est la récompense pour tout un club qu'on sent derrière nous, et quand on travaille dans la sérénité, c'est plus facile pour tout le monde, cette sérénité. C'est vous, le président, qui avez contribué à l'installer au club. C'est important, j'imagine, pour votre structure.
Pour nous, au début, chaque fois qu'on vous achetez un club, vous faites évidemment des due diligence financière, légale, regardez tous les contrats, commercial, mais sportif. Ça reste un pilier clé quand vous investissez comme nous, puisqu'on n'est pas des investisseurs dans le sens classique, on est des entrepreneurs football. On a un écosystème des clubs qui, avec Clermont Foot au milieu, qui après assiste pour encore mieux développer certains joueurs. Mohamed Cham, que vous avez encore vu hier, juste un petit exemple. Après, il y a beaucoup d'autres joueurs qui aussi passent par ces étapes. On a le FC Bille, Bienne, comme on dit en français, en troisième division suisse, qui joue dans la Tissot Arena, qui est un stade magnifique avec des installations impressionnantes. Et Austria Lustenau, avec qui on est monté, première division autrichienne, et on s'est maintenu après 22 ans, qui d'ailleurs, on a toujours la chance pour jouer à la Conference League, puisqu'ils ont un système différent que nous en France. Évidemment que Pascal Gastien, en étant la pierre angulaire, quand vous analysez toute la partie sportive du club, pour nous, c'était clair qu'au début, quand on était en Ligue 2, on aimerait qu'il reste avec tout son staff. Et c'est aussi clair que l'entraîneur, à l'époque, il a dit, bon, vous avez fait certaines promesses, certaines exigences. J'aimerais d'abord voir si, pour être clair, si vous livrez et pas seulement parler. Et après, on peut parler d'une prolongation potentielle. Mmh. On a essayé de livrer, faire le meilleur, ce qu'on pouvait faire. Depuis, on a eu cette prolongation, en sachant que maintenant, Pascal Gastien nous a, avec tout son staff d'ailleurs, nous a pas seulement aidé à monter, mais à se maintenir, et encore se maintenir, et à créer ce projet à l'intérieur sportif, qui commence par l'école de football, qui passe par le centre de formation, post-formation, etc. Et pour nous, très très important. Maintenant, il y a des gens qui disent ouais, il n'y a qu'une année de contrat qui lui reste, etc. Moi, j'aimerais contourner ça dans un argument positif, de dire il y a encore un an qui lui reste. Donc, il est instrumental sur tous les niveaux, pour aussi passer sa philosophie à nos clubs satellites, pour choisir les entraîneurs, dans les, assister au choix qui sont dans la même philosophie des entraîneurs, puisque ça c'est très important si vous voulez développer un jeune joueur. Et donc pour nous, Pascal Gastien et tout le monde dont le staff sportif sont des éléments très très clés pour assurer aussi le futur du club.
Deux petites questions pour terminer en une, président. Concernant le mercato, vous évoquiez les départs à venir, évidemment, les arrivées. J'imagine que certains de vos joueurs sont convoités. J'imagine que vous préparez déjà la saison prochaine. Vous avez certainement déjà un petit peu avancé dans ce domaine. Est-ce que cette huitième place change les ambitions du club justement pour ce mercato? Et est-ce que vous êtes un président un petit peu interventionniste qui aime bien donner son avis sur les profils des recrues envisagées?
On a plus ou moins 13 scouts qui sont engagés pour pas seulement travailler le marché français ainsi que la partie internationale, et comme j'avais évoqué avec les clubs satellites qui soutiennent le Clermont Foot. Je pense qu'au bout d'un moment, quand le président lui-même commence à faire des commentaires si un joueur est rapide ou pas, etc., on aura tout perdu. Moi, je fais confiance sur la partie sportive aux experts. Évidemment, à la fin, s'il faut décider sur le plan financier, sur le plan commercial, mon rôle, c'est plutôt l'internationalisation du Clermont Foot, c'est-à-dire d'élargir le réseau, créer des opportunités. Oui, là, je suis actif, même très actif, mais sur des profils spécifiques, non. Et en fait, sur les technicalités, on a les experts à l'intérieur de la maison. Mais comme chaque mercato, nous essayerons ici aussi de recruter quelques joueurs qui nous ont apporté une plus-value. On n'est pas obligé de vendre pour équilibrer les comptes, donc ça nous donne aussi un certain confort et une sérénité. Et comme vous le savez aussi, peut-être en étant en plein force de développer les infrastructures, le centre d'entraînement, le nouveau stade qui arrive, la nouvelle tribune qui arrive, ça va débuter. Donc, beaucoup d'investissements qui sont faits, étape par étape, soit sûr et ainsi en dehors du terrain.
Merci beaucoup, président Schaeffer, président du Clermont Foot, 8e de Ligue 1. Merci d'être passé par l'Intégral Sport sur RMC, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on vous souhaite de bonnes vacances. J'imagine que vous êtes très occupé, mais que vous allez essayer de vous reposer quand même après cette saison usante. Et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite pour la saison prochaine et à toute l'équipe et aux joueurs du Clermont Foot.
Je vous remercie. J'espère que tout le staff, les joueurs puissent bien reposer. Pour nous, le travail commence dès maintenant. Il a déjà commencé. Donc, peu de vacances, c'est planification de l'effectif pour la saison prochaine.
Et on vous retrouve.
Et je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions et on vous retrouvera avec un immense plaisir au démarrage de la saison prochaine, au mois d'août prochain sur RMC. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Merci. Bonne journée. Merci.
Vous ne bougez pas, dans un instant, l'Intégral Sport va se poursuivre. On va revenir sur cette dramaturgie évidemment inhérente à la dernière journée de Ligue 1, Nantes et Auxerre, qui se battaient à distance pour éviter de descendre dans la charrette vers la Ligue 2. C'est finalement Nantes qui reste en Ligue 1 et Auxerre qui descend. On va y revenir dans un instant dans l'Intégral Sport. Vous ne bougez pas, vous restez bien sur RMC.
RMC, Intégral Sport, Simon Dutin.
À 14h07, vous êtes bien sûr RMC en ce dimanche 4 juin. On souhaite une bonne fête aux mamans. On n'oublie pas celles qui ne sont plus là. 15h, 17h, vous n'oubliez pas, on passe la main à Christophe Cessieux, le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 sur le circuit de Barcelone, à vivre en direct en intégralité la 7e course de la saison. Verstappen évidemment en pole position. À 19h, Intégral Foot avec Benoît Boutron, avec à vivre notamment le 648e et dernier match de Karim Benzema sous le maillot du Real Madrid. De l'attaquant français qui va quitter le club madrilène. C'est le club qui l'a annoncé via un communiqué aux alentours de midi et quart. Et puis à 19h, évidemment, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet et non pas Marion Bartoli, elle est occupée par ses fonctions à Roland-Garros, mais Sarah Pitkowski, évidemment, vous avez l'habitude de ce rendez-vous. Et puis évidemment, ce soir, à vivre notamment sur l'antenne, le barrage de Top 14 entre Lyon et l'Union Bordeaux-Bègles. Vous ne manquez rien, comme d'habitude, sur AMC, le temple du sport à la radio, évidemment, vous ne ratez rien et vous vous régalez comme vous vous êtes régalé avec la saison de Ligue 1 et Ligue 2 sur lesquelles on se retourne dans un instant. On va revenir sur la lutte pour le maintien qui a animé une partie de la soirée du multiplex que vous avez vécu hier sur l'antenne. Mais avant ça, avant d'en parler, on va filer du côté de Roland-Garros, retrouver Eric Salio, Florent Serra pour faire un petit point sur les rencontres du jour, les rencontres en cours, messieurs.
Oui, on attend la fin de match du simple féminin qui oppose depuis maintenant 2h58 Anastasia Pavlyuchenkova, la russe, à Elise Mertens, la belge. On a failli vous annoncer une balle de match gagnante pour la russe, Flo, mais elle a du mal à conclure. Nasty, c'est son prénom, et je ne sais pas quelle est sa boisson préférée, mais peut-être que c'est une boisson qui se rapproche de son surnom. Balle de match à venir, Flo, on va peut-être enfin saluer la victoire de cette joueuse qui a été longtemps éloignée du circuit en raison d'une blessure au genou, à tel point qu'elle figure au 333e rang mondial. C'est
elle mériterait un grand chelem, Eric. Elle en a joué tellement, la pauvre, elle s'accroche, mais elle cale toujours. Mais bon, c'est elle est pas loin. Pas loin.
Elle a fait
c'était
finale,
il y a 2 ans. Hein.
Finale ici même il y a 2 ans. Ouais. Et donc balle de match pour la Russe qui s'entraîne dans le sud de la France, dans l'académie de Patrick Mouratoglou, mais elle n'arrive pas à conclure. C'est pas possible. 5 jeux à 1, égalité pour la Russe. Et bientôt 3 heures à la pendule.
Votre rendez-vous tennis avec Prime, diffuseur officiel de Roland Garros.
Voilà, pour ceux qui veulent du tennis et rien que du tennis, vous n'oubliez pas notre radio digitale, c'est une innovation de la maison, RMC 100% terre battue, avec les meilleures affiches du tournoi en intégralité, les dernières infos, des interviews des joueurs, des flashs actualisés, toutes les demi-heures, c'est à télécharger sur l'application RMC. Avant de parler de cette lutte pour le maintien, un petit détour sur la route du Critérium, 75e édition, Critérium du Dauphiné, ça sent la répétition avant le Tour de France. On est dans le Puy-de-Dôme où l'on retrouve Arnaud Souk, notre envoyé spécial de la rédaction RMC Sport. Où en est-on dans cette première étape, Arnaud ?
Alors nous avons déjà parcouru 40 km dans cette première étape, il en reste 117 donc à parcourir. Nous avons toujours 5 hommes en tête, Dorian Godon, Donovan Grondin pour les Français. On a également 3 Belges dont Brent Vandemoor, 1.36 d'avance sur le peloton, et on est sur le point de franchir la deuxième difficulté du jour, la côte de la Stèle. Voilà, la course qui est loin d'être décomptée, même si cette échappée est partie très très vite, il va y avoir encore beaucoup de choses qui vont pouvoir se passer d'ici à l'arrivée tout à l'heure ici à Chambon-sur-Lac aux alentours de 17h.
Merci beaucoup Arnaud, on te retrouvera évidemment d'ici là pour refaire un point régulier sur cette première étape. Mais je vous le disais, les auditeurs, vous l'avez vécu hier soir sur RMC, ce dénouement de la saison de Ligue 1 avec l'habituelle décharge d'émotions, et notamment en bas de tableau où deux équipes espéraient éviter la charrette vers la Ligue 2. C'est finalement le FC Nantes qui s'est sauvé, Auxerre qui accompagnera donc 3, Ajaccio et Angers à l'échelon inférieur la saison prochaine. On va revenir sur cette soirée. Pour ça, on accueille dans l'Intégral Sport Arthur Perrault, Xavier Grimaud de la rédaction RMC Sport. Bonjour messieurs.
Salut Simon, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors, à tout vainqueur, hein, et non pas seigneur, attention, hein, tout honneur, Xavier Grimaud, on va commencer avec toi pour parler du FC Nantes. On a fêté ce maintien comme un titre de champion hein, hier soir à la Beaugeoire.
Oui, c'est vrai que les scènes étaient assez impressionnantes. Alors bon, certains supporters disent qu'elles étaient un peu trop exubérantes, au vu de la saison et de la fin de saison notamment. Malgré tout, c'était une joie finalement qui était spontanée, la joie de se sauver parce que le FC Nantes a eu peur. Et effectivement, il y a eu envahissement de pelouse. Ils aiment ça, les envahissements de pelouse, les Nantais, puisqu'il y en a eu pas mal ces dernières années, avec notamment quand ils ont accédé à leurs 2 finales de Coupe de France la saison dernière et cette année. Et là, évidemment, pour ce maintien qui a été qui de grandes luttes, mais après il y avait plus au sein du staff, au sein du club, plus de soulagement que de joie exubérante, ouais, et de fierté, parce que le club a eu très peur. On peut écouter d'ailleurs le principal intéressé, on a envie de dire Valdemar Quitta quand même, qui a évidemment eu très peur aussi. Il s'est exprimé face à la presse après le match.
En tout cas, aujourd'hui, je remercie aussi Pierre, qui a quand même, avec son staff, qui a été très passionnel dans tout ce qu'il faisait, mais aussi très tactique, très stratégique. Je veux aussi remercier, je dirais, le public, parce que le public était fantastique, hein, beau gars de l'avoir compris, hein, il faut reconnaître, toute la saison. Et puis, je vous remercie aussi tout ce qui s'est passé, parce qu'il y avait des bonnes et des mauvaises choses, mais c'est comme ça, c'est la vie. Antoine, qui est sûrement peut-être un petit peu, je dirais, il est devant la télé, ils souhaitaient qu'on reste, hein, parce que c'est important. Donc il faut reconnaître le travail, il faut reconnaître tous les gens qui ont fait tout. C'est important ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que sinon, on recommence tout à zéro. C'est pas toujours très évident, surtout quand vous êtes tout seul.
Valdemar Quitta, le président du FC Nantes, forcément soulagé, et puis on vient de l'entendre, qui a tenu à saluer effectivement le travail d'Antoine Camboire, dont il avait été contraint de se séparer, enfin contraint, dont il avait choisi de se séparer pour tenter d'assurer ce
succès,
maintien.
Avec succès certainement, Simon, parce peut-être. Que on voit bien que cette équipe nantaise était très certainement pas capable de se relever avec Antoine Camboire. Pierre Aristouille a mis en place des choses qui ont marché rapidement. Oui, c'est bon.
Non, bien sûr, effectivement, tu te doutes bien que c'est vers l'entraîneur qui a remplacé Camboire que je voulais venir. Oui. Cette première victoire hier, quand même, je parle sous ton contrôle en 14 matchs. Au bon moment, cet effet Aristouille, effectivement, parle-nous un petit peu là de cette relation avec ce groupe, parce qu'on l'a senti évidemment très ému, mais on sent qu'il y a une vraie proximité avec ses joueurs, avec son groupe.
Ouais, totalement. Alors c'est un enfant du club, hein. Il est au club déjà comme joueur et comme formateur depuis très longtemps. Il a des excellents résultats avec les U19 au centre de formation. Et il a été immédiatement très bien intégré parce que il connaissait beaucoup de jeunes qui ont brillé ces dernières saisons au FC Nantes, notamment par exemple Randal Kolo Muani. Donc voilà, quand il arrivait dans le vestiaire, il était presque adoubé. Après, il a changé de méthode. Les joueurs l'ont dit, hein, notamment physiquement, il a mis une grosse charge physique parce que c'est vrai que les Nantais paraissaient totalement à court de souffle, et Antoine Camboire avait fait le choix de séances légères parce que les Nantais avaient beaucoup beaucoup joué cette saison, et du coup Pierre Aristouille a mis des séances où les joueurs ont vraiment tiré la langue. Ça a mis un petit peu de temps à porter ses fruits, mais c'est vrai que sur les deux derniers matchs, que ce soit à Lille ou hier face à Angers, ils se sont arrachés aussi mentalement, mais arrachés aussi physiquement. Il a fait des choix aussi d'hommes, hein, tout simplement, oui. En sondant ses joueurs, en écartant des joueurs qu'il ne sentait pas capable d'assumer mentalement la charge du maintien, et en relançant d'autres. On peut penser par exemple à Marcus Coco, qui était quasiment à la cave et qui est devenu titulaire avec Pierre Aristouille parce que Marcus Coco était capable de répéter les efforts. Il a mis un Simon sur le banc, il a mis Blas sur le
Ganago,
banc aussi,
Ganago en pointe, matchs, Ganago. Qui marque hier, ouais.
Voilà, des choix comme Quentin Merlin qu'il connaissait très bien, qu'il a repositionné milieu gauche, des choix comme Moutou Sami qu'il connaît bien aussi, qu'il a mis capitaine. Voilà, des choix qui ont porté leurs fruits. Alors ça a été ric-rac, hein, on va pas se mentir, ça a été ric-rac avec cette victoire face à Angers. Mais voilà, mais Nantes est sauvé. L'avenir maintenant, c'était une question de fuite, on peut en parler. Il est très flou et on va évidemment vite y penser du côté de Nantes.
On va revenir évidemment avec vous deux sur l'avenir, hein, qui est forcément contrasté entre ces deux clubs. Nantes qui s'est sauvé à la faveur de sa victoire face à Angers, alors que Auxerre descend donc en Ligue 2, cher Arthur Perrault. Arthur, Auxerre qui comptait 2 points d'avance pourtant avant cette journée. Des illusions, tristesse, désespoir, appelons ça comme on veut, à la hauteur des attentes, des espérances bourguignonnes avant cette rencontre.
Oui, surtout que les Bourguignons avaient leur destin entre leurs mains. On rappelle qu'avant le début de cette 38e journée, Auxerre comptait 1 point d'avance sur le FC Nantes. C'est vrai qu'on est passé un peu par toutes ces émotions que tu viens de donner, et évidemment que à la fin de la rencontre, on s'est rendu compte ici à Auxerre que Xavier Grimaud et donc cette équipe de Nantes avait beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce que Auxerre, c'est une agglomération de 37 000 habitants qui se repose énormément sur ce club historique qu'est la GIA, et forcément, pour avoir échangé avec des supporters dès la fin de la rencontre en tribune, c'est les premiers mots qui venaient, c'est-à-dire que voilà, forcément que ça va avoir un impact sur le quotidien de la ville d'Auxerre, qu'il va y avoir une période très compliquée pour les commerçants qui avaient retrouvé le sourire aussi depuis le début de la saison. On sentait qu'il y avait voilà un véritable dynamisme en ville, et c'est aussi un sacré coup dur pour la GIA parce que les supporters ont tellement galéré, ont tellement souffert ces 10 dernières années avant de retrouver cette saison la Ligue 1, qu'on se dit eh ben là on refait le chemin inverse. Et où est-ce qu'on va finalement ? Parce que en plus dans ce groupe de la GIA, il y a beaucoup de joueurs qui sont en prêt, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat. On se doute qu'ils ne seront pas là la saison prochaine. Et d'ailleurs, on l'a très bien senti hier en zone mixte quand on interroge par exemple à Massengo qui arrive en fin de contrat, on lui demande mais où est-ce que tu seras la saison prochaine ? Il dit très clairement je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions, et forcément que cette question-là, beaucoup de
joueur de la JOCR se la pose aujourd'hui. Il y a quand même un élément rassurant pour terminer que l'on peut donner, c'est cette information donnée il y a quelques minutes par Baptiste Malherbe, le directeur général de la JOCR. C'est le fait que Christophe Pélissier restera la saison oui. prochaine à la JOCR. Il est confirmé dans son poste. C'est quand même un élément très important parce que ça voudra dire qu'il y aura une forme de continuité pour Christophe Pélissier qui a réussi à bien s'implanter en deuxième partie de saison à Auxerre et qui a donc la confiance de sa direction.
Beaucoup de tristesse et beaucoup de déception. Comme j'ai dit dans les vestiaires, voir des joueurs pleurer, c'est jamais évident. Ce soir, il y avait une possibilité, bien sûr. Mais je crois qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. On avait eu la chance d'arriver jusqu'à là, parce qu'en janvier, février, tout le monde nous voyait cuit. Et on a eu la chance de pouvoir arriver jusqu'à cette finale. Malheureusement pour nous, on l'a perdu. Comme je disais aux joueurs, quand on connaît ça, on a envie de travailler encore plus fort pour jamais plus le reconnaître.
Alors effectivement, bonne nouvelle ou l'autre consolation effectivement pour la JOCR parce que Pélissier a entamé un travail qui semblait avoir porté quelques fruits, même si peut-être que les Auxerrois sont partis d'un petit peu loin. Je retourne voir Xavier pour justement, on commençait à l'évoquer, parler de l'avenir parce qu'effectivement, difficile de se projeter avant les résultats d'hier du côté du FC Nantes. Pierre Aristouille, tenez, j'en profite pour vous dire que Pierre Aristouille sera l'invité de Jean-Christophe Drouet et Sarah Pitkowski dans Bartoli Time, interview de l'entraîneur nantais, forcément heureux, soulagé, un peu plus détendu aujourd'hui, à retrouver entre 19h et 20h sur l'antenne. Xavier, est-ce que Pierre Aristouille, qui a, tu le rappelais tout à l'heure, entraîné les équipes de jeunes et qui a lui-même évolué au FC Nantes en tant que joueur, hein, Pierre Aristouille, c'était un attaquant prometteur, une légende du football landais lorsque j'étais jeune, est-ce qu'il a envie de continuer? Est-ce qu'il a des chances de continuer? On sait que le clan Kita aime parfois avoir des noms un petit peu plus clinquants sur le banc du FC Nantes.
Oui, pour les deux, en fait, pour tes deux questions, c'est extrêmement flou. Est-ce qu'il souhaite continuer? Il n'a pas répondu avec l'affirmative d'une manière assez claire après le match, en disant que c'était trop tôt pour en parler, et en laissant quand même dire que sur ces quatre matchs, il avait vu tout le stress que ça a de gérer une équipe de Ligue 1, la pression, qu'il n'avait pas vécu ça avec énormément de plaisir et qu'il avait surtout eu du soulagement. Alors, il a aimé coacher, hein, évidemment, c'est son métier, il adore ça, mais qu'il avait compris, qu'il a dit « Je ne critiquerai plus jamais un entraîneur de Ligue 1 quand je vois ce que c'est ». Comme pression et comme charge mentale où on ne vit que pour ça. Donc ça pouvait laisser présager que peut-être que lui ne se sentirait pas de continuer sur toute la saison. Ça, évidemment, il y a un petit flou. Et il y a un flou aussi sur la possibilité que ça continue. Valdemar Quitta a dit par contre assez ouvertement qu'il aimerait bien que Aristouille continue. Le problème, c'est qu'il n'a pas le diplôme et que maintenant, ça va être trop tard pour s'inscrire à une session. Ça veut dire 25 000 euros d'amende. Ça veut dire quasiment 100 000 euros d'amende par mois. Vous faites compte sur une saison, c'est quasiment le prix d'un transfert ou d'un joueur important.
Ou d'un joueur bien payé, oui.
Ou d'un joueur bien payé à l'échelle du FC Nantes. Donc voilà, la tendance, si on devait dire aujourd'hui la tendance, c'est sans doute que Pierre Aristouille ne soit pas sur le banc de l'équipe première du FC Nantes la saison prochaine. Maintenant, effectivement, il incarne une culture club, les supporters se reconnaissent là-dedans, les joueurs ont aussi adhéré là-dedans. Il va y avoir beaucoup de changements dans l'effectif, il y a énormément de cadres qui vont partir, donc peut-être qu'un nouveau coach avec de nouveaux joueurs, un nouveau recrue, ça c'était plus la tendance pour la saison prochaine. Les grandes manœuvres vont commencer dès demain. Le FC Nantes n'avait pas vraiment prévu de plan B, n'avait pas vraiment prévu de plan Ligue 2, donc maintenant tant mieux pour eux, ils restent en Ligue 1, ils vont pouvoir avancer.
Et en tout cas, nul doute que Jean-Christophe Drouet et Sarah Pitkowski lui poseront la question. Puisque je vous le rappelle, Pierre Aristouille est invité de Bartoli Time à partir de 19h ce soir sur RMC. Merci beaucoup Xavier Grimaud, merci beaucoup Arthur Perrault, on vous retrouve évidemment un petit peu plus tard sur l'antenne, notamment autour de l'ami Benoît Boutron, 17h-19h Intégra Sport, Benoît qui reviendra évidemment sur les conséquences de cette dernière journée de Ligue 1. Mais pour l'instant, dans l'Intégral Sport, c'est l'heure du défi hippique.
RMC. Le défi hippique.
Le défi hippique, le rendez-vous qui ne manque pas de sel, c'est avec Frédéric Quitta aujourd'hui. Bonjour Fred.
Salut Simon, salut à tous. Effectivement, on a un quintet aujourd'hui qui est programmé, attention, à 15h23 sur l'hippodrome de Chantilly et non 15h15. Et ils seront 14 galopeurs à s'affronter sur la distance de 2400 mètres. Et on a toujours un homme en forme, pardon, un parieur, Xavier, qui reste sur de nombreux succès, qui est là avec nous au 32-16. Salut Xavier.
Salut Frédéric.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi-même?
Bah ça va aussi. Bon, on va te suivre encore aujourd'hui. Hein. C'est quoi ton favori dans ce quintet?
Eh bien moi, ça va être le numéro 4, Bétard, qui appartient à la Kazakh de la Gacan. Oui. Cheval qui faut reprendre sur sa dernière sortie, qui était sur un très beau niveau de groupe 3 et qui a déçu. mais ses sorties précédentes étaient assez régulières, donc je crois qu'aujourd'hui il peut intégrer la bonne combinaison et les trois premières places.
C'est noté, merci Xavier. Ma dernière minute dans ce quintet sera un outsider, le numéro 3 Fellow, un concurrent allemand qui a toujours bien fait sur le sol français, qui va certainement aller aux avant-postes et qui peut conserver une belle place à l'arrivée dans ce quintet. Je récapitule, hein, si le numéro 4 Bétard termine devant le numéro 3 Fellow, Xavier, tu seras de nouveau tout demain pour le défi pic. Je te souhaite bonne chance, un très bon quintet.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Ah, merci beaucoup, Frédéric Kita. Les auditeurs, vous savez que vous ne manquez rien de l'actualité des courses hippiques, les cotes, les paris, les résultats et le quintet, évidemment, en live à vivre sur RMC. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant. On va accueillir dans quelques minutes Mathieu Hudol, le capitaine du FC Metz, formé chez les Grenats. Figurez-vous qu'il a eu le plaisir, la joie immense de conduire son équipe en Ligue 1, capitaine d'un FC Metz, donc qui retrouve l'élite du football français la saison prochaine. Il est mon invité dans quelques instants. Vous ne bougez pas, vous restez sur RMC.
RMC, Intégral Sport, Simon Dutin.
14h28, vous êtes bien sûr à RMC, on est ensemble en direct dans l'Intégral Sport jusqu'à 15h avant de poursuivre autour de l'ami Christophe Cessieux. Vous vivrez en direct en intégralité le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 sur le circuit de Barcelone avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier. Évidemment, 17h-19h, Benoît Boutron au platine pour l'Intégral Sport. Et puis 19h, Bartoli Time, votre show autour de Jean-Christophe Drouet et Sarah Pitkowski. Pierre Aristouille, je vous le disais il y a un instant, sera l'invité, l'entraîneur du FC Nantes, d'un FC Nantes sauvé en Ligue 1 pour la saison prochaine. Dans un instant, je vais accueillir Mathieu Hudol, le capitaine du FC Metz, parce que le FC Metz est promu en Ligue 1. Mathieu Hudol, formé au club, qui a eu le privilège de conduire son club de cœur lors de la victoire. Oui, vendredi soir face à Saint-Symphorien, face à Bastia, les Grenats qui vont donc retrouver la Ligue 1 directement. Mais vous le saviez, on a démarré cet Intégral Sport avec cette information. Karim Benzema, c'est officiel, va quitter le Real Madrid après 14 saisons sous les couleurs madrilènes. Il disputera son 648e et dernier match aujourd'hui à Bernabéu face à l'Athletic Bilbao. On imagine que les adieux vont être immenses pour celui qui est devenu une des légendes du club madrilène. Évidemment, ce match sera à vivre en direct sur RMC. On va filer tout de suite à Madrid, retrouver Pierre Chaperon, notre envoyé spécial qui nous attend, notre correspondant qui nous attend devant le stade Santiago Bernabéu. Bonjour Pierre.
Salut Simon, salut à tous.
Pierre, devant le stade, est-ce qu'il y a déjà des socios? Est-ce qu'il y a déjà du monde? Et en tout cas, est-ce que ceux qui sont déjà là parlent de Karim Benzema? J'imagine que oui.
Ouais, c'est le sujet principal aujourd'hui, surtout depuis donc ce communiqué qui a été publié par le Real Madrid sur son site internet et sur ses réseaux sociaux. Bien sûr qu'on parle de Karim Benzema. Après, je vais vous dire la vérité, on n'est pas forcément très surpris, parce que depuis une semaine, les rumeurs sur un possible départ, eh ben, c'était le sujet central de toutes les discussions entre supporters du Real Madrid, dans les médias. Partira, partira pas. Il avait gardé le suspense, il avait rien dit jeudi lors de la remise de la récompense Marca Leyenda. Mais Marca s'était même avancé de dire il va rester. Bah, ça fait un peu comme Neymar quand on avait dit c'est Keda. Marca avait dit c'est Keda et au final, eh ben, il part Karim Benzema. Il y a des supporters qui sont en train d'arriver. Il y a toujours beaucoup de gens autour du Real Madrid avec le musée et leur magasin principal au Santiago Bernabéu. Bien sûr que là, il va y avoir encore plus de monde et surtout qu'il va y avoir un superbe adieu pour Karim Benzema et tout ce qu'il représente pour ce Real Madrid.
Merci beaucoup Pierre Chaperon, notre correspondant à Madrid. Karim Benzema qui va donc disputer ce soir son 648e et dernier match sous la tunique du Real Madrid. Real Madrid Athletic Bilbao, match à vivre évidemment en direct sur RMC. Avant d'accueillir Mathieu Hudol, le capitaine du FC Metz qui nous attend pour revenir sur la remontée du FC Metz en Ligue 1 la saison prochaine, on va faire un petit détour par Roland Garros. Eric Salio, Florence Serra, un petit point sur les rencontres en cours.
Avec la qualification il y a quelques minutes d'Anastasia Pavlyuchenkova. Belle histoire pour cette Russe, hein, qui était longtemps éloignée des cours, qui pointe au 333e rang mondial, tellement elle a chuté. Et donc son tennis est intact. Elle a battu en 3-7 Elise Mertens, 3-6, 7-6, 6-3. Elle jouera dans deux jours la gagnante du match entre la Tchèque Mukova et la lucky loser russe Avanesyan. Et puis sur le court, Suzanne Lenglen, Ça se précise pour Karen Khachanov. Le Russe mène 2-1 face à Sonego et surtout 4-1 dans le quatrième set. Donc vous avez compris, l'entrée de Novak Djokovic sur le châtrier est imminente.
Merci beaucoup Eric. On vivra ça évidemment sur RMC tout à l'heure avec toi. Le Critérium du Dauphiné, 75e édition. La première étape, Arnaud Souk sur la route de la course. Où en est-on ?
Eh bien, on a parcouru pour l'instant un petit peu plus de 50 km. Il en reste 101 encore jusqu'à l'arrivée tout à l'heure aux alentours de 17h à Chambon sur Lac. On a toujours 5 hommes en tête, dont les deux Français, Dorian Godon et Donovan Grondin. Attardons-nous un petit peu sur ce deuxième, hein, le jeune coureur de l'équipe Arkea, Sam Sik, qui avait été l'un des seuls cyclistes à revenir avec une médaille des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 à l'américaine avec Benjamin Thomas, une médaille de bronze. Il a été champion du monde également de l'américaine. Eh bien, il a aussi des qualités a priori de rouleur et de grimpeur, surtout puisqu'il a pris pour l'instant les deux premiers des points de la journée pour le classement des grimpeurs en passant en tête de la côte du Mont d'Or et de la côte de la Stèle. Il restera 3 difficultés aujourd'hui, mais étant donné que cette échappée est tenue en laisse à environ 2 minutes par le peloton, on peut imaginer qu'il pourra aller chercher un troisième point tout à l'heure du côté de la côte du Rocher de l'Aigle. Ça sera dans plusieurs dizaines de kilomètres, encore 100 kilomètres à parcourir avant l'arrivée ici à Chambon-sur-Lac.
Merci beaucoup Arnaud, on y aura ça évidemment tout à l'heure en direct sur RMC. Mais comme promis, notre invité football, ce fut l'un des grands moments de la soirée de vendredi lors de la dernière journée de Ligue 2. La joie à Saint-Symphorien, le stade du FC Metz en folie pour célébrer le retour du club grenat la saison prochaine en Ligue 1, un an seulement après avoir quitté l'élite. Avec nous pour en parler, on est ravis d'accueillir Mathieu Hudol, le capitaine du FC Metz. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté l'invitation de RMC.
Bonjour, avec plaisir, merci.
Mathieu Hudol, capitaine d'un FC Metz promu en Ligue 1 la saison prochaine, enfin presque promu, dans l'attente de la réunion de la commission de discipline demain. Elle doit statuer sur l'arrêt de la rencontre Bordeaux-Rodez. Mathieu, on n'est pas inquiet du côté de Metz ?
Non, du tout. Nous, on a fait notre travail. Après, la situation qu'il y a de l'autre côté, bon, au vu des choses qui se sont passées par le passé du même genre, a priori, ça ne devrait pas avoir d'influence sur le fait qu'on puisse monter.
Et ça ne vous a pas empêché, évidemment, de célébrer vendredi soir, effectivement, après cette victoire face à Bastia. Mathieu, raconte-nous, justement, cette soirée de vendredi, Saint-Symphorien en feu, cette victoire, 3-2, toi, l'enfant du club, formé à Metz, capitaine, tu emmènes tout le monde en Ligue 1. Est-ce que c'est l'un des plus grands, beaux moments de ta carrière ?
Oui, clairement, oui, parce que même si j'ai déjà vécu 2 montées précédemment, celle-ci en étant capitaine, voilà, en emmenant tout un groupe et tous les supporters, l'effervescence qu'il y avait autour de cette rencontre et la saison qui était très atypique pour le coup, avec une série assez incroyable et historique pour le club, pour de matchs sans défaite pour revenir là et terminer en obtenant un maintien à la dernière journée, c'est beaucoup d'émotions et très très belle soirée.
Alors tu l'as rappelé, tu as déjà connu la Ligue 1. C'est la 5e fois en 20 ans que le club remonte immédiatement après une relégation. On imagine quand même que le FC Metz se passerait volontiers de cette étiquette de spécialiste du yo-yo ou de l'ascenseur.
Oui, c'est sûr que on a cette étiquette-là, d'équipe qui fait l'ascenseur, mais bon voilà là. On profite de ces émotions de la montée et puis après il y aura un été pour bien se préparer pour la Ligue 1 et voilà, mettre tout en place pour atteindre les objectifs qui sont de maintenir un club en Ligue 1 et le pérenniser dans le temps.
Évidemment, le maintien comme premier objectif. Mathieu, cette saison, Messine, elle est incroyable. Il y a cette série d'invincibilité, 16 victoires, 9 nuls. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Et si oui, où, quand, comment, un moment fondateur peut-être?
Ouais, il y a eu plusieurs tournants dans la saison. C'est vrai qu'au bout de 13 journées, on comptait déjà 6 défaites et 12 points de retard sur le leader. Mais après ça, peu de temps avant la Coupe du Monde, on a enchaîné 2 victoires, plus la Coupe de France qui a permis de faire vivre l'effectif et de lancer la saison de certains joueurs. Et après ça, on a enchaîné des victoires, des bons résultats et ça s'est plus jamais arrêté. On a créé une super dynamique qui a fait que on a chassé Bordeaux, on a grappillé petit à petit jusqu'à passer devant au Golavera à l'avant-dernière journée. Donc au meilleur des moments pour nous et il fallait valider ce ticket-là pour ce dernier match.
Mathieu Hudol, capitaine du FC Metz, promu en Ligue 1 la saison prochaine. Évidemment, dans l'attente, on le rappelle, de cette décision de la commission de discipline qui doit statuer sur l'arrêt de la rencontre Bordeaux auprès des invités de l'Intégral Sport. Mathieu, cette réussite messine, c'est également évidemment celle de Laszlo Bologny, votre entraîneur. Ça fait 30 ans qu'on le voit sur les bords des pelouses françaises. C'est quoi la méthode Bologny en 2023?
Ah, j'ai pas connu la méthode Bologny avant, mais mais en tous les cas, il a su malgré les difficultés qu'on a pu vivre en début de saison, maintenir un groupe en confiance, donner de la confiance à beaucoup de jeunes, lancer aussi beaucoup de jeunes, et voilà, créer un groupe fort et solide. C'est vrai que le début de saison était compliqué et les espoirs étaient très minces. Comme j'ai dit, à la 13e journée, les espoirs de montée étaient très minces. Mais voilà, il a su nous donner de la confiance dans notre jeu, dans nos qualités. Et puis, une série s'est enclenchée et ça ne s'est plus jamais arrêté.
Bon, et les clichés sur la méthode Bologny, un peu autoritaire, un peu patriarcal, c'est du passé, ça? Il a su s'adapter à la nouvelle génération?
Honnêtement, oui, parce que... Voilà, c'est sûr que je pense que comment il coachait il y a 30 ans, ça doit être très différent de gérer les joueurs aujourd'hui. Et je pense que ça ne se passerait pas de la même manière aujourd'hui en étant très autoritaire. Mais malgré tout, il a pas eu la nécessité forcément peut-être de s'énerver avec notre groupe. Mais voilà, il a su être strict quand il le fallait et souple aussi quand il le fallait. Il a très bien géré ce groupe-là, ce qui nous a permis voilà, de nous relancer dans une saison qui n'était pas gagnée d'avance.
Un petit mot enfin sur Georges Mikotadze, ton coéquipier, meilleur joueur, meilleur buteur de cette saison en Ligue 2. Est-ce qu'il est si fort que ça? Est-ce que vous lui demandez déjà de faire un petit effort et de rester avec vous en Ligue 1? Parce qu'on imagine qu'il va être très convoité cet été.
Non, il a eu aussi un temps d'adaptation. Le début de saison était pas forcément... comme il a fini, et ça se déroulait pas comme sur des roulettes, mais c'est vrai que dès que je pense aussi le coach a su l'utiliser de la meilleure des façons et que le groupe se connaissait mieux parce que au final là, il revenait de près également. Donc voilà, mais une fois que la machine était lancée, c'était difficile de l'arrêter et puis il a terminé assez largement en tête du classement des buteurs et puis voilà, il a des qualités énormes et bien sûr qu'on souhaite qui reste la saison prochaine. Après, on maîtrise pas ça, mais ça peut être que du positif pour nous qui puisse rester avec nous.
Effectivement, dans le projet objectif maintien, ça pourrait être un atout de valeur. Juste un dernier mot, c'est quoi le programme pour Mathieu Hudol, le capitaine du FC Metz? Là, on part en vacances, on part où et combien de temps?
Alors oui, on a cérémonie protocolaire en mairie et puis après c'est les vacances pour tous les joueurs et ça va profiter. Personnellement, ça part un peu en Afrique du Sud et en Guadeloupe, donc on va essayer de profiter un maximum pour recharger bien les batteries et ensuite se tourner vers la saison prochaine.
Bon, et on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite pour cette saison prochaine. On espère que le FC Metz va arrêter avec cette vilaine habitude de redescendre et de remonter immédiatement, de faire le yo-yo, comme on dit dans le jargon. Et on vous souhaite de bonnes vacances, de profiter de cette joie, de ce bonheur, et puis de bien préparer la saison qui s'annonce. Merci beaucoup d'être passé par RMC,
merci
Mathieu.
À vous. Merci à vous.
Voilà, et rendez-vous le week-end du 12 et 13 août pour revoir le FC Metz et Mathieu Hudol en Ligue 1 à ce championnat. Donc évidemment, vous ne manquerez rien la saison prochaine. Vous ne bougez pas, 14h40, l'Intégral Sport revient dans un instant pour la toute dernière ligne droite avant de passer le volant à Christophe Cessieux pour le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone. Kylian Mbappé, Dani Medvedev sont là en guest star pour assister à cette course. Donc vous ne manquerez rien à suivre en direct en compagnie de Jean-Luc Roy et Denis Chevrier. On fait un petit point, on se projette sur les enjeux de cette course dans un instant. Tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. Simon Dutin.
14h44, vous êtes bien sur RMC. C'est la dernière ligne droite du premier étage de la fusée Intégral Sport. On va passer la main dans quelques instants à Christophe Cessieux pour que vous viviez en direct en intégralité le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 sur le circuit de Barcelone. On va se projeter sur cette course avec Jean-Luc Roy. Jean-Luc, salut.
Salut Simon, bonjour à tous.
Jean-Luc, tu seras aux côtés évidemment de ton compère Denis Chevrier pour nous faire vivre la course autour de Christophe tout à l'heure. Max Verstappen, Red Bull et Carlos Sainz en en première ligne tout à l'heure. Bon, on dit souvent que le Grand Prix d'Espagne, sur ce circuit de Barcelone que les pilotes connaissent très bien, est un petit peu soporifique, que souvent il y a des gros écarts qui se creusent devant. Mais là, on sait qu'avec un Leclerc 19e qui s'est raté en qualif hier, un Pérez décevant 11e, on peut, fait nous rêver, espérer que ces pilotes-là vont nous animer cette course aujourd'hui.
Je sais ce que tu attends de moi, ben je vais assumer et assurer sans mentir. C'est ça qui est délicat. Alors, soyons clairs, si Verstappen part devant, effectivement, il a un niveau de performance a priori qui va lui permettre de creuser, ouais, comme d'habitude, l'écart qu'il voudra en ménageant le pneu avant gauche, c'est celui qui va être sensible. A priori, tout le monde partira en slick, mais je sais qu'on en parle tout à l'heure, les conditions météo peuvent évoluer rapidement. Et ça, c'est, il y a 60% de chances qu'il pleuve. Donc, un moment ou un autre de la course. Bon, donc, si Verstappen part devant, bah oui, là, c'est la 4e pole de la saison, la 24e de sa carrière, qu'il met au niveau de deux triples champions du monde, rien moins que Nelson Piquet et Niki Loda, tu vois un peu.
Même, oui.
Alors, je sais qu'il y a plus de grands prix par an, on le répète chaque année. Donc, mais enfin, 24 pôles, ça pose un homme quand même. Bah, c'est l'homme fort du championnat à l'heure actuelle. Il a meilleure voiture, meilleure équipe. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, Carlos Sainz, apparemment quand même survolté chez lui par son public. Il n'est jamais parti aussi bien en Espagne. Carlos Sainz, il est vraiment là. C'est la première fois qu'il est en ligne là. C'est la meilleure perf depuis pour lui en qualif depuis Imola en 2002. Bon, bah écoute, on peut dire qu'il va être gonflé à mort. A priori, la Ferrari, même si le pauvre Charles Leclerc, on va en parler, ne l'a pas démontré, elle a progressé parce que là aussi, on n'arrête pas d'apporter des éléments aérodynamiques nouveaux. Et c'est ici à Barcelone, comme tu le disais, les pilotes et les équipes connaissent bien, même si malheureusement cette année, c'est pas là que se sont déroulés les essais préliminaires en début de saison, mais les équipes ont leur base. Et puis derrière, on a quand même un Lando Norris qui a sorti un tour de folie avec McLaren, un Lewis Hamilton et puis évidemment les Français.
Très rapidement, Jean-Luc, tu en as parlé, cette météo, on a vu le ciel est noir au-dessus de Barcelone, la pluie, si la pluie s'invite, qu'est-ce que ça peut changer?
Eh ben, tout ou rien, c'est-à-dire qu'à Monaco, merci. À Monaco, on a fait la danse de la pluie avec de Nice, ça a marché. On va faire à nouveau, on commence d'ailleurs à faire la danse de la pluie.
Je recommande aux auditeurs, effectivement, la danse de la pluie en studio de Denis et Jean-Luc.
Si tu veux, j'ai le secret de tribus indiennes qui subsistent là-bas en Floride. Donc, je peux te dire que ça marche à peu près un coup sur deux. Donc, ça va marcher. Donc, on aura de la pluie. Alors maintenant, est-ce que ça va permettre de bouleverser le classement? Eh ben, non, parce qu'à Monaco, ça n'a pas permis de bouleverser le classement devant. Maintenant, il y a eu quand même des erreurs. Ben, là aussi, le pauvre Russell qui... Enfin bon, Pérez aussi. Disons qu'on souhaite la pluie. Pourquoi? Parce que c'est un élément que les équipes ne savent pas quand elle va vraiment arriver. Et puis là, on voit la capacité de réaction des pilotes et des équipes. Je fais bref.
Merci beaucoup, Jean-Luc. Je te félicite. Je sais à quel point c'est compliqué. Jean-Luc Croix, Denis Chevrier, nos spécialistes de sport auto, pour vous faire vivre autour de Christophe Cessieux le Grand Prix d'Espagne de Formule 1, la 7e course de la saison de ce championnat du monde qu'on espère un petit peu relancer avec le suspense, la pluie. On verra si Gasly, qui a pris 6 places de pénalité suite à sa belle qualif hier, va faire cette remontée. C'est à vivre. À partir de 15h, d'ici 10 minutes, sur RMC, Christophe Cessieux vient d'enfiler sa cagoule. Il rentre dans le baquet de l'Intégral Sport. Vous n'oubliez pas, 18h30, le dernier match de Karim Benzema avec le Real Madrid, Real Atlético, évidemment. Et puis 19h, Bartoli Time, Pierre Aristouille, invité de Jean-Christophe Drouet et Sarah Pitkowski. Vous ne bougez pas, vous restez bien sur RMC. Le sport en live, le débat ne s'arrête jamais. Salut.